Chapitre 6. Bio commence à s'apercevoir que tout n'est pas rose dans les révolutions. Les Pites. Bio, qui avait conjointement avec Pitou trempé dans toutes les libations glorieuses, commença de s'apercevoir que les calices arrivaient. Lorsqu'il eut repris ses sens à la fraîcheur de la rivière, « Monsieur Bio, dit Pitou, je regrette Villers-Cotterêts, et vous ?» Ces mots, comme une fraîche sensation de vertu et de calme, réveillèrent le fermier qui retrouva sa vigueur pour fendre la foule et s'éloigner de cette boucherie. « Viens, dit-il à Pitou, tu as raison. » Et il se décida à venir trouver Gilbert qui habitait à Versailles et qui, sans être retourné près de la reine depuis le voyage du roi à Paris, était devenu le bras droit de Necker, rentré au ministère, abandonnant le roman de sa vie pour l'histoire de tous et essayant d'organiser la prospérité en généralisant la misère. Et puis tout le suivit, comme toujours. Tous deux furent introduits dans le cabinet où travaillait le docteur. « Docteur, dit Bio, je retourne à ma ferme. » « Et pourquoi cela ?» demanda Gilbert. « Parce que je hais Paris. » « Ah oui, je comprends, dit froidement Gilbert, vous êtes là. Excédé. Vous n'aimez plus la Révolution, je voudrais l'avoir finie. » Gilbert sourit tristement. « Elle commence, dit-il. « Oh, fit Bio. Cela vous étonne, Bio ?» demanda Gilbert. « Ce qui m'étonne, c'est votre sang-froid. » « Mon ami, demanda Gilbert à Bio, savez-vous d'où me vient ce sang-froid ? Il ne peut venir que d'une conviction, précisément. Et quelle est cette conviction ? Devinez, que tout finira bien. » Gilbert sourit plus tristement encore que la première fois. Non, au contraire, de la conviction que tout finira mal. Bio se récria. Quant à Pitou, il écarquilla des yeux énormes. Il trouvait l'argumentation peu logique. « Voyons, dit Bio en se grattant l'oreille avec sa grosse main, voyons, car je ne comprends pas bien, il me semble. »« Prenez une chaise, Bio, dit Gilbert, et vous placez bien près de moi. » Bio obéit. « Bien près, plus près, que vous m'entendiez, mais que personne ne m'entende. » « Et moi, monsieur Gilbert ?» demanda timidement Pitou, faisant signe qu'il était prêt à se retirer si Gilbert le désirait. « Oh, non, reste, dit le docteur, tu es jeune, écoute. » Pitou ouvrit des oreilles égales à la circonférence de ses yeux et s'assit à terre près de la chaise du père Bio. C'était un assez curieux spectacle que celui d'un conciliabule pareil, tenu par ces trois hommes dans le cabinet de Gilbert, auprès d'un bureau écrasé de lettres, de papiers, d'imprimés frais et de journaux, à quatre pas d'une porte qu'assiégeaient, sans pouvoir la forcer, des solliciteurs et des plaignants, contenus par un commis vieux, presque aveugle et manchot. « J'écoute, dit Bio, expliquez-vous, maître, comment tout finira-t-il mal ?»« Voici, Bio, savez-vous ce que je fais en ce moment, mon ami ?» Vous écrivez des lignes, mais le sens de ces lignes, Bio. Comment voulez-vous que je devine cela, moi qui ne sais même pas lire? Pitou leva timidement la tête et jeta les yeux sur le papier qui était devant le docteur. Il y a des chiffres, dit-il. Voilà, il y a des chiffres. Eh bien, ces chiffres sont à la fois la ruine et le salut de la France. Tiens, fit Bio. Tiens, tiens, répéta Pitou. Ces chiffres-là, imprimés demain, continua le docteur, iront demander au palais du roi, au château des nobles et aux chaumières des pauvres, le quart de leurs revenus. « Hein ?» fit Bio. « Oh, ma pauvre tante Angélique !» murmura Pitou. « Quelle grimace elle va faire !»« Qu'en dites-vous, mon brave ?» continua Gilbert. « On fait des révolutions, n'est-ce pas ? Eh bien, on les paie. »« C'est juste !» répondit héroïquement Bio. « Eh bien, soit, on paiera. » « Parbleu, fit Gilbert, vous êtes un homme convaincu, et votre réponse n'a rien qui étonne, mais ceux qui ne sont pas convaincus, ceux qui ne le sont pas, oui, que feront-ils ? Ils résisteront, fit Bio, d'un ton qui voulait dire qu'il résisterait vigoureusement, lui, si on lui demandait le quart de son revenu pour accomplir une œuvre contraire à ses convictions. « Alors lutte, fit Gilbert, mais la majorité, dit Bio. » « Achevez, mon ami, la majorité est là pour imposer sa volonté, donc oppression. » Billot regarda Gilbert avec doute d'abord, puis un éclair intelligent brilla dans son œil. « Attendez, Billot, fit le docteur, je sais ce que vous allez dire. Les nobles et le clergé ont tout, n'est-ce pas ?»« C'est certain, dit Billot, aussi les couvents. »«
Les couvents ?»«
Les couvents regorgent. »«
Notum certumque, grommela Pitou. »
Les nobles ne paient pas un impôt comparatif. Ainsi, moi, fermier, je paie plus du double d'impôt à moi seul que les trois frères de Charny, mes voisins, qui ont, à eux trois, plus de 200 000 livres de rente. Mais voyons, continua Gilbert, croyez-vous que les nobles et les prêtres soient moins français que vous ? Et Pitou dressa l'oreille à cette proposition qui sonnait l'hérésie en un temps où le patriotisme se mesurait à la solidité des coudes sur la place de Grève. « Vous n'en croyez rien, n'est-ce pas, mon ami ? Vous ne pouvez reconnaître que ces nobles et ces prêtres, qui absorbent tout et ne rendent rien, soient aussi patriotes que vous.
C'est vrai.
Erreur, mon cher, erreur. Ils le sont plus, et je vais vous le prouver. »
Oh, « par exemple, fit Billot, je nie. »«
À cause des privilèges, n'est-ce pas ?»«
Pardieu. »«
Attendez. »«
Oh, j'attends. »«
Eh bien, je vous certifie, Billot, que d'ici à 3 jours, l'homme le plus privilégié de France sera l'homme qui ne possédera rien. »«
Alors, ce sera moi, » dit gravement Pitou.
« Eh bien oui, ce sera toi. »«
Comment cela ?» dit le fermier.
« Écoutez, Billot, ces nobles et ces ecclésiastiques que vous accusez d'égoïsme, les voilà qui commencent à être pris de cette fièvre de patriotisme qui va faire le tour de la France. En ce moment, ils s'assemblent, comme les moutons au bord du fossé. Ils délibèrent, le plus hardi va sauter, après-demain, demain, ce soir peut-être, et après lui, tous sauteront. »
Qu'est-ce à dire, monsieur Gilbert ?
C'est-à-dire que faisant l'abandon de leurs prérogatives, seigneurs féodaux, ils lâcheront leurs paysans, seigneurs terriens, leurs fermages et leurs redevances, nobles à colombiers, leurs pigeons.
Oh, fit Pitou stupéfait, vous croyez qu'ils lâcheront tout cela ?
Oh, s'écria Billot illuminé, mais c'est la liberté splendide, cela !
Eh bien après, quand nous serons libres, que ferons-nous ?
Dame, fit Billot un peu embarrassé, ce que nous ferons, ben, on verra.
Ah, voilà le mot suprême, s'écria Gilbert.
On verra. Il se leva d'un air sombre, se promena silencieux pendant quelques minutes. Puis, revenant au fermier, dont il prit la main calleuse avec une sévérité qui ressemblait à de la menace,
« Oui, dit-il, on verra, oui, nous verrons tous, toi comme moi comme toi, moi comme lui.
Et voilà justement ce à quoi je songeais tout à l'heure quand tu m'as trouvé ce sang-froid qui t'a tant surpris.
Vous m'effrayez, le peuple uni, s'embrassant, s'agglomérant pour concourir à la prospérité commune, c'est un sujet qui vous assombrit, monsieur Gilbert. »
Celui-ci haussa les épaules. « Alors, continua Billot, interrogeant à son tour, que direz-vous de vous-même si vous doutez aujourd'hui, après avoir tout préparé dans l'ancien monde et en donnant la liberté au nouveau ?»«
Billot, reprit Gilbert, tu viens sans t'en douter de prononcer un mot qui est le sens de l'énigme. Ce mot que prononce Lafayette et que nul peut-être, à commencer par lui, ne comprend. Oui, nous avons donné la liberté au nouveau monde. »
Nous, Français, c'est bien beau.
C'est bien beau, mais ce sera bien cher, dit tristement Gilbert.
Bah, l'argent est dépensé, la carte est payée, dit joyeusement Billot. Un peu d'or, beaucoup de sang, et la dette est acquittée.
Aveugle, dit Gilbert, aveugle qui ne voit pas dans cette aurore d'Occident le germe de notre ruine à tous.
Hélas, pourquoi les accuserais-je, moi, qui ne l'ai pas vu plus qu'eux ?
Avoir donné la liberté au nouveau monde, Billot, j'en ai bien peur, c'est avoir perdu l'ancien.
Rerum novus nascitur ordo, dit Pitou, avec un grand aplomb révolutionnaire.
Silence, enfant, dit Gilbert.
Était-il donc plus malaisé, reprit Billot, de soumettre les Anglais que de calmer les Français ?
Nouveau monde, répéta Gilbert, c'est-à-dire place nette, table rase, pas de loi, mais pas d'abus, pas d'idées, mais pas de préjugés. En France, 30 000 lieues carrées pour 30 millions d'hommes, c'est-à-dire, en cas de partage de la place, à peine à chacun pour un berceau et une tombe. Là-bas, en Amérique, 200 000 lieues carrées pour 3 millions d'hommes, des frontières idéales avec le désert, c'est-à-dire l'espace avec la mer, c'est-à-dire avec l'immensité. Dans ces 200 000 lieues, des fleuves navigables pendant 1 000 lieues, des forêts vierges dont Dieu seul connaît la profondeur, c'est-à-dire tous les éléments de la vie, de la civilisation et de l'avenir. Oh, que c'est facile, Bio, quand on s'appelle Lafayette et qu'on a l'habitude des épées, quand on s'appelle Washington et qu'on a l'habitude de la pensée, hein, que c'est facile de combattre des murailles de bois, de terre, de pierre ou de chair humaine. Mais lorsqu'au lieu de fonder, on détruit, lorsqu'on voit dans le vieil ordre des choses qu'on attaque des murailles d'idées croulant et derrière les ruines même de ces murailles se réfugier tant de gens et tant d'intérêts, quand, après avoir trouvé l'idée, on voit que, pour la faire adopter à un peuple, il faudra peut-être décimer ce peuple, depuis le vieillard qui se souvient jusqu'à l'enfant qui apprendrait, depuis le monument qui est la mémoire jusqu'au germe qui est l'instinct, alors Bio, c'est une tâche qui fait frémir ceux qui voient au-delà de l'horizon. J'ai la vue longue, Bio, et je frémis. Pardon, monsieur, dit Bio, avec son gros bon sens, vous m'accusiez tout à l'heure de haïr la révolution, et voilà que vous me la faites exécrable. Mais t'ai-je dit que je renonçais? Errare humanum est, murmura Pitou, cet perseverare diabolicum. Et il ramena à lui ses pieds avec ses mains. « Je persévérerai cependant, continua Gilbert, car tout en voyant les obstacles, j'entrevois le but, et le but est splendide, Bio. Ce n'est pas seulement la liberté de la France que je rêve, c'est la liberté du monde entier. Ce n'est pas l'égalité physique, c'est l'égalité devant la loi. Ce n'est pas la fraternité devant les citoyens, c'est la fraternité entre les peuples. » J'y perdrai peut-être mon âme, et j'y laisserai peut-être mon corps, continua mélancoliquement Gilbert, mais n'importe, le soldat qu'on envoie à l'assaut d'une forteresse voit les canons, voit les boulets qu'on y fourre, voit la mèche qu'on en approche. Il voit plus encore, il voit la direction dans laquelle ils sont pointés. Il sent que ce morceau de fer noir viendra lui trouer la poitrine, mais il faut que la forteresse soit prise. Eh bien, nous sommes tous soldats, Père Bio, en avant, et que sur la jonchée de nos corps marchent un jour les générations dont cet enfant que voici est l'avant-garde. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous désespérez, monsieur Gilbert. Est-ce parce qu'un malheureux a été égorgé sur la place de Grève? Pourquoi as-tu de l'horreur, alors? Va, Bio, égorge aussi. Oh, que dites-vous là, monsieur Gilbert? Dame, il faut être conséquent. Tu es venu tout pâle, tout tremblant, toi, si brave et si fort, et tu m'as dit, je suis excédé. Je t'ai ri au visage, Bio, et voilà que quand je t'explique pourquoi tu étais pâle, pourquoi tu étais excédé, c'est toi qui ris de moi, ton tour. Parlez, parlez, mais d'abord laissez-moi l'espoir que je retournerai guéri, consolé dans mes campagnes. Les campagnes, écoute Bio, tout notre espoir est là. La campagne, révolution dormante qui remue tous les 1000 ans, et qui donne le vertige à la royauté toutes les fois qu'elle remue, la campagne remuera à son tour lorsque viendra l'heure d'acheter ou de conquérir ces biens mal acquis dont tu parlais tout à l'heure et qui engorgent la noblesse ou le clergé. Mais pour pousser la campagne à la révolte des idées, il faut pousser le paysan à la conquête de la terre. L'homme, en devenant propriétaire, devient libre, et en devenant libre, devient meilleur. À nous autres donc, ouvriers privilégiés, pour qui Dieu a consenti à lever le voile de l'avenir, à nous le travail terrible qui, après avoir donné au peuple la liberté, lui donnera la propriété. Ici, Bio, bonne œuvre et mauvaise récompense peut-être, mais œuvre active, puissante, pleine de joie et de douleur, pleine de gloire et de calomnie. Là-bas, sommeil profond et impuissant dans l'attente d'un réveil qui se fera à notre voix, d'une aurore qui viendra de nous. Une fois la campagne réveillée, notre labeur ensanglanté sera fini à nous, et sa labeur paisible commencera à elle. Quel conseil me donnez-vous alors, monsieur Gilbert? Veux-tu être utile à ton pays, à ta nation, à tes frères, au monde? Reste ici, Billot. Prends un marteau et travaille à cet atelier de Vulcain qui forge des foudres pour le monde. Rester pour voir égorger, pour en venir peut-être à égorger moi-même. Comment cela, fit Gilbert avec un pâle sourire. Toi, égorger, Billot, que dis-tu donc là? Je dis que si je reste ici, comme vous m'y invitez, s'écria Billot tout tremblant, je dis que le premier que je verrai attacher une corde à une lanterne, je dis que celui-là, je le pendrai avec les mains que voilà. Gilbert acheva de dessiner son fin sourire. Allons, dit-il, tu me comprends, et te voilà égorgeur aussi. Oui, égorgeur de scélérats. Dis-moi, Billot, tu as vu égorger Delhomme, Delaunay, Flessel, Foulon et Berthier? Oui. Comment ceux qui les égorgeaient les appelaient-ils? Des scélérats. Oh, c'est vrai, dit Pitou, ils les appelaient des scélérats. Oui, mais c'est moi qui ai raison, dit Billot. Tu as raison si tu pends, oui, mais si tu es pendu, tu auras tort. Billot baissa la tête sous le coup de massue, puis tout à coup, la relevant avec noblesse, « Me soutiendrez-vous, dit-il, que ceux-là qui assassinent des hommes sans défense et sous la sauvegarde de l'honneur public, me soutiendrez-vous qu'ils soient des Français, comme j'en suis un ?»« Ah, dit Gilbert, ceci, c'est autre chose. Oui, il y a en France plusieurs sortes de Français. Il y a d'abord le peuple français, dont Pitou, dont tu es, dont je suis. » Puis il y a le clergé français, puis il y a la noblesse française. Trois sortes de Français en France. Français, chacun a son point de vue, c'est-à-dire au point de vue de ses intérêts, et cela sans compter le roi de France, français à sa manière. Ah, Billot, ici, vois-tu, dans la manière différente d'être français, de tous ces Français-ci, ici est la vraie révolution. Tu seras français d'une façon, l'abbé Maury sera français d'une autre manière que toi, Mirabeau sera français d'une autre manière que l'abbé Maury, enfin, le roi sera français d'une autre manière que Mirabeau. Eh bien, Billot, mon excellent ami, homme au cœur droit et à l'esprit saint, tu viens d'entrer dans la deuxième partie de la question que je traite. Fais-moi le plaisir, Billot, de jeter les yeux sur ceci. » Et Gilbert présenta au fermier un papier imprimé. « Qu'est-ce que cela ?» dit Billot en prenant le papier. « Élie, vous savez bien que je ne sais pas lire. Mais j'ai d'apitou de lire, alors. » Pitou se leva et, se haussant sur la pointe des pieds, vint regarder par-dessus l'épaule du fermier. « Ce n'est pas du français, dit-il, ce n'est pas du latin, ce n'est pas non plus du grec. »« C'est de l'anglais, répliqua Gilbert. « Je ne sais pas l'anglais, dit orgueilleusement Pitou. « Je le sais, moi, dit Gilbert, et je vais vous traduire ce papier, mais lisez d'abord la signature. »« Pit, dit Pitou, qu'est-ce que cela, Pit ?»« Je vais vous l'expliquer, Gilbert. » Pitt, reprit Gilbert, c'est le fils de Pitt. Tiens, dit Pitou, c'est comme dans l'écriture, il y a donc Pitt premier et Pitt second. Oui, et le Pitt premier, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous écoutons, répondirent ensemble Billot et Pitou. Ce Pitt premier fut pendant 30 ans l'ennemi juré de la France. Il combattit du fond de son cabinet, où le clouait la goutte, Montcalm et Vaudreuil en Amérique, le bailli de Suffrène et d'Estaing-sur-Mer, Noailles et Broye sur le continent. Ce Pitt premier avait eu pour principe qu'il fallait détrôner les Français de l'Europe. Pendant 30 ans, il nous reprit, une à une, toutes nos colonies, un à un, tous nos comptoirs, tout le littoral de l'Inde, 1500 lieues dans le Canada, puis, lorsqu'il vit que la France était ruinée aux trois quarts, il lui suscita son fils pour la ruiner tout à fait. Ah, fit Billot, visiblement intéressé. Ainsi, le Pitt que nous avons, précisément, reprit Gilbert, c'est le fils du Pitt que nous avons eu et que vous connaissez déjà, père Billot, que Pitou connaît, que l'univers connaît, et qui a eu 30 ans au mois de mai dernier. 30 ans? Vous voyez, s'il a bien employé son temps, mes amis. Eh bien, voilà 7 années qu'il gouverne l'Angleterre, 7 années qu'il met en pratique les théories de son père. Alors, nous en avons encore pour un temps, dit Billot. Oui, d'autant plus que le souffle vital est vivace chez les Pites. Laissez-moi vous en donner la preuve. Pitou et Billot indiquèrent par un petit mouvement de tête du haut en bas qu'ils écoutaient avec la plus grande attention. Gilbert continua. En 1778, le père de notre ennemi se mourait. Les médecins lui avaient annoncé que sa vie ne tenait plus qu'à un fil et que le moindre effort romprait ce fil. On agitait alors en plein parlement la question d'abandonner les colonies américaines à leur désir d'indépendance pour arrêter la guerre qui menaçait, fomentée par les Français, d'engloutir toute la richesse et tous les soldats de la Grande-Bretagne. C'était au moment où Louis XVI, notre bon roi, celui à qui toute la nation vient de décerner le titre de père de la liberté française, venait de reconnaître solennellement l'indépendance de l'Amérique. Là, sur les champs de bataille et dans les conseils avaient prévalu l'épée et le génie des Français. L'Angleterre fit offrir à Washington, c'est-à-dire au chef des insurgés, la reconnaissance de la nationalité américaine si, se retournant contre les Français, la nouvelle nation voulait s'allier à l'Angleterre. Mais, dit Billot, il me semble que ce n'était pas une proposition honnête à faire ni à accepter. Mon cher Billot, on appelle cela de la diplomatie, et dans le monde politique, on admire fort ces sortes d'idées. Eh bien, Billot, tout immoral que vous jugiez la chose peut-être, malgré Washington, le plus loyal des hommes, eût-on trouvé des Américains disposés à acheter la paix au prix de cette honteuse concession à l'Angleterre? Mais Lord Chatham, le père de Pitt, ce malade condamné, ce mourant, ce fantôme qui déjà était entré jusqu'aux genoux dans la tombe, Chatham qui semblait ne plus avoir à demander que le repos sur la terre avant le sommeil sous son monument, ce vieillard se fit conduire au parlement où la question allait être traitée. Il donnait le bras à son fils William Pitt, alors jeune homme de 19 ans, et à son gendre. Il était revêtu d'habits somptueux, dérisoire enveloppe de sa mortelle maigreur. Pâle comme un spectre, l'œil à moitié mort sous ses paupières languissantes, il se fit mener à son banc, au banc des comptes, tandis que tous les lords, stupéfaits de l'apparition inattendue, s'inclinaient et admiraient comme eût pu faire le Sénat romain au retour de Tibère, déjà mort et oublié. Il écouta en silence, avec un profond recueillement, le discours de Lord Richmond, l'auteur de la proposition, et quand celui-ci eut terminé, Chatham se leva pour répondre. Alors cet homme mort trouva de la force pour parler 3 heures. Il trouva du feu dans son cœur pour allumer l'éclair de ses regards. Il trouva dans son âme des accents qui remuèrent tous les cœurs. Il est vrai qu'il parlait contre la France, il est vrai qu'il soufflait la haine à ses compatriotes, il est vrai que toutes ses forces et tout son feu, il les avait évoquées pour ruiner et dévorer le pays odieux, rival du sien. Il défendit que l'Amérique fût reconnue indépendante, il défendit toute transaction, il s'écria « La guerre, la guerre !» Il parla comme Hannibal contre Rome, comme Caton contre Carthage. Il déclara que le devoir de tout Anglais loyal était de périr ruiné, plutôt que de souffrir qu'une colonie, une seule, se détachât de la mère patrie. Il acheva sa péroraison, lança sa dernière menace et tomba foudroyé. Il n'avait plus rien à faire dans ce monde, on l'emporta expirant. Quelques jours après, il était mort. « Oh !» firent à la fois Billot et Pitou, « quel homme que ce Lord Chatham !» C'était le père du jeune homme de 30 ans qui nous occupe, acheva Gilbert. Chatham mourut à 70 ans. Si le fils vit l'âge du père, nous avons encore 40 ans de William Pitt à subir. Voilà, père Billot, celui à qui nous avons affaire. Voilà l'homme qui gouverne la Grande-Bretagne. Voilà celui qui se souvient des noms de Lamet, de Rochambeau, de Lafayette, qui sait, à l'heure qu'il est, tous les noms de l'Assemblée nationale. Celui qui a juré une haine à mort à Louis XVI, l'auteur du traité de 1778. Celui, enfin, qui ne respirera plus librement tant qu'il y aura en France un fusil chargé et une poche pleine. Commencez-vous à comprendre. Je comprends qu'il déteste fort la France, oui, c'est vrai, mais je ne vois pas encore bien, ni moi, dit Pitou. Eh bien, lisez ces quatre mots. » Et il présenta le papier à Pitou. « De l'anglais, fit celui-ci. « Don't mind money, fit Gilbert. « J'entends bien, dit Pitou, mais je ne comprends pas. « Ne faites aucun cas de l'argent, répliqua le docteur, et plus loin encore, revenant sur la même recommandation, « dites-leur de ne pas épargner l'argent et de ne me rendre aucun compte. « Alors, ils arment, dit Biot. « Non, ils corrompent. « Mais à qui est adressée cette lettre ?» À tout le monde et à personne. Cet argent qu'on donne, qu'on répand, qu'on prodigue, on le donne à des paysans, à des ouvriers, à des misérables, à des gens, enfin, qui nous gâteront la révolution. Le père Biot baissa la tête. Ce mot expliquait bien des choses. Auriez-vous assommé Delaunay d'un coup de crosse de fusil, vous, Biot? Non. Auriez-vous tué Lesselles d'un coup de pistolet? Non. Auriez-vous pendu Foulon? Non. Auriez-vous apporté le cœur tout sanglant de Berthier sur la table des électeurs ? Infamie ! S'écria Biot. C'est-à-dire que, quelque coupable que fût cet homme, je me serais fait mettre en morceaux pour le sauver, et la preuve, c'est que j'ai été blessé en le défendant, et que, sans Pitou, qui m'a entraîné sur le bord de la rivière... Oh, « ça c'est vrai, dit Pitou, sans moi, il passait un mauvais quart d'heure, le père Biot. » « Eh bien, voyez-vous, Biot, beaucoup de gens existent qui agiront comme vous lorsqu'ils sentiront un soutien près d'eux, lesquels, au contraire, abandonnés au mauvais exemple, deviennent méchants, puis féroces, puis frénétiques. Et puis, quand le mal est fait, il est fait. « Mais enfin, objecta Biot, j'admets que M. Pitt, ou plutôt son argent, soit pour quelque chose dans la mort de Flesselles, de Foulon et de Berthier. Qu'en retirera-t-il » Gilbert se mit à rire de ce rire silencieux qui étonne les simples et fait tressaillir les penseurs. « Ce qu'il en retirera, vous le demandez, dit-il. « Oui, je le demande. Je vais vous le dire. Le voici. » Vous aimez beaucoup la Révolution, n'est-ce pas, vous qui avez marché dans le sang pour prendre la Bastille? Oui, je l'aimais. Eh bien, maintenant, vous l'aimez moins. Eh bien, maintenant, vous regrettez Villers-Cotterêts, Pisseleu, le calme de votre plaine, l'ombre de vos grands bois. Frigida tempe, murmura Pitou. Ah oui, vous avez raison, dit Biot. « Eh bien, vous, père Biot, vous, fermier, vous, propriétaire, vous, enfant de l'île de France, et par conséquent, vieux français, vous représentez le tiers, vous êtes ce qu'on appelle la majorité. Eh bien, vous êtes dégoûté. Je l'avoue. Alors, la majorité se dégoûtera, comme vous. Et après, et un jour, vous tendrez les bras aux soldats de Monsieur de Brunswick ou de Monsieur Pitt, lesquels viendront, au nom de ces deux libérateurs de la France, vous rendre les saines doctrines. Jamais. Ben, attendez donc. Flesselles, Berthier et Foulon étaient au fond des scélérats, essaya d'objecter Pitou. Parbleu, comme Monsieur de Sartines et Monsieur de Maurepas étaient des scélérats, comme Monsieur d'Argenson et Monsieur Philippot en étaient avant eux, comme Monsieur Lowe en était un, comme Monsieur Duvernay, les Leblanc et les de Paris en étaient, comme Fouquet en fut un, comme Mazarin en fut un autre, comme Semblancé, comme Enguerrand de Marigny furent des scélérats, comme Monsieur de Brienne en est un pour Monsieur de Calonne, comme Monsieur de Calonne en est un pour Monsieur Necker, comme M. Necker en sera un pour le ministère que nous aurons dans 2 ans. « Oh, docteur, murmura Biot, M. Necker, un scélérat, jamais. Comme vous serez, mon bon Biot, un scélérat pour le petit Pitou que voici, au cas où un agent de M. Pitt lui apprendra certaines théories sous l'influence d'une chopine d'eau-de-vie et de 10 francs par jour d'émeute. » Ce mot « scélérat », voyez-vous, mon cher Biot, c'est le mot avec lequel, en révolution, on désigne l'homme qui pense autrement que soi. Nous sommes destinés à le porter tous, peu ou beaucoup. Quelques-uns le porteront si loin que leurs compatriotes l'inscriront sur leur tombe, d'autres tellement plus loin que la postérité ratifiera l'épithète. Voilà, mon cher Biot, ce que je crois et ce que vous ne voyez pas. Biot, Biot, il ne faut donc pas que les honnêtes gens se retirent. Bah, fit Biot, quand les honnêtes gens se retireraient, la révolution n'en irait pas moins son train, elle est lancée. » Un nouveau sourire se dessina sur les lèvres de Gilbert. « Grand enfant, dit-il, qui abandonne le manche de la charrue, qui dételle les chevaux et qui dit « Bon, la charrue n'a pas besoin de moi, la charrue fera son sillon toute seule. Mais, mon ami, cette révolution, qui l'a donc faite? Les honnêtes gens, n'est-ce pas ? La France s'en flatte, il me semble que Lafayette est un honnête homme, il me semble que Bailly est un honnête homme, il me semble que M. Necker est un honnête homme, il me semble enfin que M. Élie et que M. Hulin, que M. Maillard, qui combattaient avec moi, sont d'honnêtes gens, et il me semble enfin que vous-même... « Eh bien, Billot, si les honnêtes gens, si vous, si moi, si Maillard, si Hulin, si Élie, si Necker, si Bailly, si Lafayette s'abstiennent, qui donc travaillera ? Mais ces misérables, ces assassins, ces scélérats que je vous ai signalés, les agents, des agents de Monsieur Pitt. » « Regardez un peu à cela, père Billot, dit Pitou, convaincu. « Eh bien, dit Billot, on s'armera et l'on tirera sur eux comme sur des chiens. » « Attendez, qui s'armera ? Tout le monde ! Billot, Billot, rappelez-vous une chose, mon bon ami, c'est que ce que nous faisons dans ce moment-ci s'appelle... Comment s'appelle ce que nous faisons dans ce moment-ci, Billot ? Cela s'appelle de la politique, monsieur Gilbert. Eh bien, en politique, il n'y a pas de crime absolu. On est un scélérat ou un honnête homme selon qu'on blesse ou sert les intérêts de celui qui nous juge. » Ceux que vous appelez des scélérats donneront une raison spécieuse à leur crime, et pour beaucoup d'honnêtes gens qui auront eu un intérêt direct ou indirect à ce que ces crimes soient commis, deviendront de très honnêtes gens eux-mêmes. Du moment où nous en tenons là, prenons garde, Billot, prenons garde. Voilà du monde aux manches et des chevaux au trait de la charrue. Elle marche, Billot, elle marche, et sans nous. « C'est effrayant, dit le fermier, mais si elle marche sans nous, où ira-t-elle »« Dieu le sait, fit Gilbert, quant à moi, je n'en sais rien. »« Eh bien alors, si vous n'en savez rien, vous qui êtes un savant, monsieur Gilbert, à plus forte raison, moi qui suis un ignare, j'en augure donc... »« Qu'en augurez-vous, Billot ? Voyons. » J'en augure que ce que nous avons de mieux à faire, Pitou et moi, c'est de nous en retourner à Pisseleu. Nous reprendrons la charrue, la vraie charrue, celle de fer et de bois avec laquelle on remue la terre, et non pas celle de chair et d'os qu'on appelle le peuple français et qui regimbe comme un cheval vicieux. Nous ferons pousser du blé au lieu de répandre le sang, et nous vivrons libres, joyeux et seigneurs chez nous. Ah, venez, venez, monsieur Gilbert, peste, j'aime à savoir où je vais, moi. Un moment, brave cœur, dit Gilbert. Non, je ne sais pas où je vais, je vous l'ai dit et je vous le répète. Cependant, je vais et je veux aller toujours. Mon devoir est tracé, ma vie appartient à Dieu, mais mes œuvres sont la dette que je paierai à la patrie. Que ma conscience seulement me dise « Va, Gilbert, tu es dans la bonne route, va, voilà tout ce qu'il me faut à moi. Si je me trompe, les hommes me puniront, mais Dieu m'absoudra. » Mais parfois, les hommes punissent même ceux qui ne se trompent pas, vous le disiez tout à l'heure. Et je le dis encore, n'importe, je persiste, Billot, erreur ou non, je continue. Répondre que l'événement ne prouvera point mon impuissance, Dieu me garde de prétendre cela, mais avant tout, Billot, le Seigneur l'a dit, paix aux hommes de bonne volonté. Soyons donc ceux-là auxquels le Seigneur promet sa paix. Regarde, monsieur Lafayette, tant en Amérique qu'en France, voilà déjà le troisième cheval blanc qui l'use, sans compter ceux qui l'usera encore. Regarde, monsieur Bailly, qui use ses poumons, regarde le roi, qui use sa popularité. Allons, allons, Billot, ne soyons pas égoïstes. Usons-nous un peu, mon ami. Reste avec moi, Billot. Mais pourquoi faire si nous n'empêchons pas le mal? Billot, souviens-toi de ne jamais répéter ce mot-là, car je t'estimerai moins. Tu as reçu des coups de pied, des coups de poing, des coups de crosse et même des coups de baïonnette quand tu as voulu sauver Foulon et Berthier. « Ah, oui, et même beaucoup, répondit le fermier en passant la main sur ses membres encore endoloris. « Et moi j'ai eu l'œil presque enfoncé, dit Pitou. » « Et tout cela pour rien, ajouta Billot. » Eh bien, mes enfants, si au lieu d'être 10, 15, 20 de votre courage, si vous eussiez été 100, 200, 300, vous arrachiez le malheureux à l'effroyable mort qu'on lui a faite, vous épargniez une tâche à la nation. Voilà pourquoi, au lieu de partir pour les campagnes qui sont assez calmes, voilà pourquoi, Bio, j'exige, autant que je puisse exiger quelque chose de vous, mon ami, que vous demeuriez à Paris, pour que j'aie sous la main un bras solide, un cœur droit, pour que j'essaie mon esprit et mon œuvre sur la loyale pierre de touche de votre bon sens et de votre pur patriotisme. Pour qu'enfin, répandant, non pas de l'or, puisque nous n'en avons pas, l'amour de la patrie et du bien public, tu sois mon agent près d'une foule de malheureux égarés, pour que tu sois mon bâton quand j'aurai glissé, mon bâton quand j'aurai à frapper. Un chien d'aveugle, dit Bio avec une simplicité sublime. Justement, fit Gilbert du même ton. Eh bien, j'accepte, dit Bio, je serai ce que vous demandez. Je sais que tu abandonnes tout, fortune, femme, enfant, bonheur, Bio, mais ce ne sera pas pour longtemps, sois tranquille. Et moi, demanda Pitou, que ferais-je? Toi, dit Gilbert, en regardant le naïf et robuste enfant, peu fanfaron d'intelligence, toi, tu retourneras à Pisseleu, consoler la famille de Bio et expliquer la sainte mission qu'il a entreprise. À l'instant, dit Pitou, tressaillant à l'idée de retourner près de Catherine. Bio, dit Gilbert, donnez-lui vos instructions. Les voici, dit Bio. J'écoute. Catherine est nommée par moi maîtresse de la maison, tu entends? Et madame Bio, fit Pitou un peu surpris de ce passe-droit fait à la mère en faveur de la fille. Pitou, dit Gilbert, qui avait saisi toute l'idée de Bio à la vue d'une légère rougeur montée au front du père de famille, rappelle-toi ce proverbe arabe, entendre, c'est obéir. Pitou rougit à son tour, il avait presque compris et senti son indiscrétion. Catherine est l'esprit de la famille, dit Bio, sans façon pour ponctuer sa pensée. Gilbert s'inclina en signe d'assentiment. « Est-ce tout ?» demanda l'enfant. « Pour moi, oui, » dit Bio. « Mais non pour moi, » fit Gilbert. « J'écoute, » fit Pitou, disposé à mettre en pratique le proverbe arabe cité 5 minutes avant par Gilbert. « Tu vas passer avec une lettre de moi au collège Louis-le-Grand, » ajouta Gilbert. « Tu donneras cette lettre à l'abbé Bérardier, il te remettra Sébastien. » Tu me l'amèneras, je l'embrasserai, et tu le conduiras à Villers-Cotterêts, où tu le remettras à l'abbé Fortier, pour qu'il ne perde pas trop son temps. Les dimanches et les jeudis, il sortira avec toi. Fais le marché, sans rien craindre, par les plaines et par les bois. Mieux vaut, pour ma tranquillité à moi, et pour sa santé à lui, qu'il soit là-bas qu'ici. J'ai compris, s'écria Pitou, ravi de retrouver à la fois les amitiés d'enfance et les vagues aspirations d'un sentiment un peu plus adulte qui s'éveillait en lui au nom magique de Catherine. Il se leva, prit congé de Gilbert qui souriait et de Bio qui rêvait. Puis il partit, tout courant, pour aller chercher Sébastien Gilbert, son frère de lait, chez l'abbé Bérardier. Et nous, dit Gilbert à Bio, travaillons.